Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Place du Palais Bourbon, le podcast qui connecte élus et citoyens.
Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Je souhaite que la Providence veille sur la France. Pour son bonheur.
Liberté, égalité, fraternité.
Et pour sa grandeur.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Ça va, qui et vous?
Très bien. Tout à l'heure, vous m'entendrez mieux.
Ouais, c'est très bien là en tout cas. Hein. Pour le son, c'est parfait. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Je vois que vous avez même des collègues qui sont là. Bonsoir, monsieur Pierre-Alain Raffan.
Mais oui, bonsoir,
Pierre-Alain. C'est sympa. Merci d'être
Mais
là.
Oui. Et puis maintenant qu'il est spotted, voilà.
Oui, maintenant il va être obligé de participer, il ne peut plus partir. C'est cuit.
Mais oui. je vois un étudiant du 12e arrondissement qui est là aussi.
Il y a ma maman aussi, je précise, dans le lot.
Voilà.
Je l'ai vu. Bonsoir à tout le monde. Madame bonsoir. La députée, bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Ravie de vous recevoir sur ce live de Place du Palais Bourbon. C'est la première fois que vous participez. Nous sommes ravis. Enfin, je suis ravie de vous recevoir. Oui. On va du coup parler un peu de.
Là.
Merci. On va parler du coup un peu de l'actualité parlementaire. Ce qui serait intéressant, c'est que vous nous décriviez un peu ce que vous êtes en train de faire à l'Assemblée nationale en ce moment, quelles sont les actualités. Et aussi, après, en seconde partie d'émission, enfin, en seconde partie du live, on parlera un peu de vous. Parce que ce qui nous intéresse, c'est aussi de savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes députée, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici.
Ça me convient? Quelle idée.
Oui, quelle idée. Vraiment. En pleine crise sanitaire, en plus que vous n'avez pas pu anticiper, certes, mais bon, quand même, fallait le faire. Et bien sûr, je précise pour les personnes qui nous suivent et qui nous regardent qu'il ne faut pas hésiter à envoyer des petits commentaires si jamais vous avez des questions à poser. Et voilà, bonjour. On va commencer si ça ne vous dérange pas. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour qu'on comprenne un peu ce que vous faites en ce moment à l'Assemblée nationale et qui vous êtes? Et on parlera ensuite des actualités, ce sur quoi vous travaillez actuellement, si ça vous convient.
Bien sûr, donc je suis Laetitia Avia, j'ai 35 ans, je suis députée depuis 2017, membre de la commission des lois. Avant d'être députée, j'étais avocate et donc je travaille beaucoup sur les sujets qui sont liés à la justice de manière générale. J'ai un sujet que je porte en particulier qui est celui de la régulation des réseaux sociaux et de la lutte contre la haine en ligne. C'est pas un sujet qui est lié à mon passé d'avocate, c'est plutôt un sujet qui est lié à mon actualité de députée femme noire qui se présente sur les réseaux sociaux et qui a donc vu la déferlante de haine et qui s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose contre ça. Et donc voilà, c'est les sujets sur lesquels je travaille principalement et puis je suis porte-parole de La République En Marche depuis ses débuts.
Ça c'est intéressant aussi, on en parlera parce que porte-parole c'est un rôle particulier, c'est intéressant quand même.
Tout à fait.
On en parlera en seconde partie d'émission si ça ne vous dérange pas.
Je découvre, on en parlera très bien.
Génial, merci beaucoup parce que ça peut nous intéresser. Du coup, quelles sont les actualités en ce moment au Parlement européen? Parlement français, désolé, je ne sais pas pourquoi je parlais Parlement européen. On avait des députés européens la semaine dernière.
Et c'est peut-être parce que aussi je travaille beaucoup avec le Parlement européen en ce moment, puisque j'étais rapporteure du projet de loi renforçant les principes républicains et j'étais rapporteure sur le chapitre 4, qui est le chapitre sur la haine en ligne.
D'accord.
Donc, l'idée, c'était de reprendre les travaux que j'avais menés avec ma proposition de loi contre les contenus haineux, qui a été votée et censurée assez largement.
Au Conseil constitutionnel,
on ne le cache pas. Ouais. Enfin, Conseil constitutionnel, il y a trois mesures importantes qui sont restées. Mais tout le reste a été censuré. J'en profite pour dire un petit bonjour à Salomé.
Bonjour Salomé.
Et donc, on a repris ces dispositions sous l'impulsion de la Commission européenne.
D'accord.
La Commission européenne avait déposé un texte le 15 décembre pour réguler les réseaux sociaux. Et donc, on est reparti de ce qui avait été rédigé par la Commission européenne pour adapter ça, bien sûr, au droit français et pouvoir porter en France en urgence, parce que le Parlement européen, ça va prendre un petit peu de temps avant d'être pleinement voté. Donc, pour voter en urgence des mesures pour vraiment lutter contre la haine en ligne. Et je crois que ce qui s'est passé encore aujourd'hui dans le Val-d'Oise, où on n'a pas encore tous les éléments précis de l'enquête, mais cette jeune fille qui a été harcelée apparemment et qui avait des vidéos d'elle qui avaient circulé, en tout cas de ce que je comprends sur Snapchat, ben, c'est clairement le genre de situation auquel on essaye de remédier et, à travers ces dispositions-là. Il y a des vies qui sont en jeu, en fait, il ne faut pas l'oublier.
Donc vous avez un peu anticipé l'obligation de transposition, en quelque sorte, de ce texte.
Exactement. C'est de la créativité légistique. Donc, c'est vraiment de le débat parlementaire européen, il est nécessaire parce que on va avoir besoin d'avoir enfin Internet ne connaît pas de frontières nationales, donc on va avoir besoin d'avoir le texte qui s'applique le plus largement possible. Mais quand on voit l'affaire Samuel Paty, quand on voit la déferlante de haine vis-à-vis de la jeune Mila, quand on voit ce drame encore hier, quand on voit tout ce que s'est pris après le Benyaoum, pardon, Miss Provence. Et heureusement, sa vie n'a pas été en danger, mais elle aurait pu l'être aussi. On peut pas attendre, on peut pas attendre 3-4 ans que les parlementaires européens se mettent d'accord, c'est pas possible.
Ouais, bien sûr. Du coup, votre actualité, enfin, le texte a été voté par l'Assemblée nationale, il doit normalement être inscrit à l'ordre du jour du Sénat, je suppose.
Tout à
bientôt.
Fait.
D'accord.
Tout à fait, je crois fin mars, début avril. Voilà, donc je suis ça un petit peu, et puis surtout là, je suis les discussions à l'échelle européenne avec nos. Donc c'est Sandro Gozzi et Stéphane Séjourné qui sont mes interlocuteurs au Parlement européen pour essayer aussi continuer de porter le sujet.
D'accord.
Puis voilà. Puis il y a d'autres sujets que je travaille en France.
Bien sûr, c'est
aussi
ce que j'allais vous demander justement en parallèle. Depuis que ce texte est parti. Au Sénat, que faites-vous? Comment occupez-vous vos journées?
Oui, parce que j'étais désœuvrée. Et donc, je ne savais que faire en tant que membre de la commission des lois. Non, c'est une petite boutade parce que c'est vrai qu'en commission des lois, on a des.
Vous êtes très occupée.
On a plusieurs textes par semaine. Ouais. Je me suis principalement mobilisée sur les textes sur les violences sur mineurs. Donc, c'est un texte extrêmement important.
Ce sont des propositions de loi, c'est ça? Il y a eu une proposition de loi.
Voilà, il y a eu deux propositions de loi. Une qui venait des socialistes.
Ouais.
Proposition de loi.
Pendant
Santiago,
la niche,
et une qui est arrivée du Sénat. Proposition de loi Billon. On a travaillé sur les deux, ce qui fait que ça nous a permis de tester un certain nombre de dispositions aussi.
D'accord.
Et là, en fait, c'est la Billon qui va aboutir. Parce qu'elle est déjà passée par le Sénat, donc c'est plus rapide en fait en réalité. Mais en gros, ce qu'on a comme disposition et qui font consensus, c'est de redéfinir ce qu'est un viol sur mineur et en fait de dire que en dessous de 15 ans, il n'y a pas de consentement. En dessous de 15 ans, un acte de pénétration sur un mineur, eh bien c'est un viol, sauf. Parce que c'est ce que le garde des Sceaux appelle les amours adolescentes ou Roméo et Juliette. Donc, sauf quand il y a un écart d'âge de 5 ans. Et là, justement, on met ce seuil de tolérance pour être au plus près du terrain et bien appréhender si, enfin, on ne peut pas non plus pénaliser des jeunes couples. Il y a ça, il y a l'inceste dedans qui est reconnu enfin. Et ça. À l'affaire d'Alain Duhamel, révélé par Camille Kouchner. Donc là, on va créer un vrai crime d'inceste et le mettre comme ça pleinement dans la loi. Puis il y a d'autres dispositions sur lesquelles on travaille, notamment forcément en matière numérique. Aujourd'hui, quand vous êtes sur TikTok, vous voyez, enfin, c'est un repère pour prédateurs sexuels, TikTok. On a des jeunes filles qui envoient des vidéos d'elles.
De manière totalement naïve, bien sûr.
Et ensuite, tout cela sert à des réseaux de pédocriminels. Donc, donc, on va mettre quelques dispositions pour mieux les protéger aussi.
D'accord. Est-ce que vous avez le volet préventif et éducation? Comment ça se passe, du coup, sur ce type de texte? Qu'est-ce que vous prévoyez là, typiquement?
C'est toujours compliqué, sur tous les textes, de mettre des mesures en matière préventive alors que l'on sait que c'est le nerf de la guerre. J'avais un échange avec une jeune femme qui justement a été beaucoup la cible de cyberharcèlement et qui me disait, il y a un moment, faut arrêter d'arroser, on n'arrose pas les pétales de la fleur, de la plante, faut arroser les racines. C'est vraiment là qu'il faut aller chercher les choses. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Le problème, c'est que là, on voit les limites de l'exercice. Quand on est législateur, ben, la loi, il y a rarement des éléments de prévention.
Ouais, bien sûr, mais vous pouvez les créer, vous.
Oui, mais souvent, ce n'est pas de l'ordre législatif, tout ce qui est de la prévention. Alors, on essaie de le mettre via des rapports, on essaie de le mettre via de la sensibilisation. Là, sur la haine en ligne, par exemple, on a réussi à mettre une action de prévention forte. Ça n'a pas été facile. Je ne vous cache pas, ça n'a pas été facile. Mais on a créé un permis Internet. Et en fait, ce permis Internet, de la même manière qu'on a aujourd'hui le SSR pour le vélo, en fait, ça va être en primaire et au collège, donc CM2 et 4e, 3e, une vraie action de sensibilisation. Donc l'idée, ce n'est pas juste d'apprendre à utiliser Internet et les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas besoin de nous pour ça, ils savent faire. Mais l'idée, c'est vraiment de les sensibiliser au fonctionnement des algorithmes, aux dérives sur les réseaux sociaux, au bon usage, au civisme,
Bien sûr.
en ligne aussi. Tout ça s'apprend en fait, c'est pas inné. Et donc ça, c'est de la prévention qu'on peut mettre via la loi. C'est pas facile à faire, mais là, on a réussi à le faire, donc je suis assez satisfaite.
D'accord,
En revanche, sur
super.
les violences sur mineurs, il n'y a rien à faire dans la loi en matière de prévention. C'est du travail de terrain et ça va falloir qu'on le continue.
D'accord. Donc ce texte, quel est son avenir à court terme?
Alors, le texte sur les violences sur mineurs, il est dans l'hémicycle le 15, donc
D'accord. Bientôt, ouais.
c'est bientôt. On doit déposer nos amendements avant jeudi. Donc, j'ai passé l'après-midi à en rédiger quelques-uns. Je ne vous cache pas que j'ai transmis à notre rapporteur, c'est Alexandra Louis, qui est sur le sujet depuis la loi Schiappa. Elle était rapporteure de la loi Schiappa
D'accord.
aussi. Donc voilà, je lui ai transmis mes amendements cet après-midi pour pouvoir avoir un petit retour. Je les déposerai sinon jeudi et puis on va débattre de cela entre lundi et mercredi dans l'hémicycle,
OK.
en espérant avoir un consensus. Hein. C'est le genre de texte sur lequel les étiquettes politiques ne doivent pas exister.
Ouais, bien sûr. Après, il y a certaines mesures qui peuvent quand même faire débat, notamment sur le seuil. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de débats sur quel seuil choisir, 15 ans,
Alors
18
là,
ans.
on est d'accord sur le seuil, je pense. En tout
D'accord.
cas, en commission, on était d'accord sur le seuil de 15 ans. Là où il y a débat, c'est sur l'écart d'âge. Voilà, l'écart
D'accord.
d'âge de 5 ans, avec certains qui considèrent que cet écart d'âge est trop large, d'autres qui considèrent qu'il ne devrait pas exister du tout et qu'il faut un interdit strict et que oui, quand on a 18 ans, on ne peut pas être avec quelqu'un qui a 14 ans et demi. Et même si avant on avait 17 ans, le jour où on a 18 ans, et bien dans ce cas-là, faut arrêter cette relation. Voilà, certains peuvent avoir cette position, j'entends, hein, je
D'accord,
comprends.
d'accord.
C'est pas celle qui est retenue par le gouvernement et c'est pas celle que moi je soutiens. Je crois on ne peut pas poser des interdits aussi forts et qu'on doit pouvoir conjuguer la protection des enfants, ce qui est l'élément le plus
Bien
important.
sûr, c'est central,
Voilà. Avec aussi une dose de liberté les concernant et concernant ce qui est vraiment consenti.
oui.
Parce que si on est en présence d'interdits beaucoup trop stricts et qui ne correspondent pas à la réalité de leur relation, eh bien, on va les perdre, on va perdre le contrôle, on va perdre la possibilité qu'ils viennent nous dire en réalité ce qu'ils vivent. Parce que si ce qu'ils font est interdit, ils ne viendront pas dire que lorsqu'il y a un problème, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention au niveau du curseur. Donc, quand on fixe un interdit, de veiller à ne pas perdre la possibilité d'être informé, sensibilisé de ceux qui détournent, en fait, des mineurs.
Et bien sûr, c'est un sujet très compliqué, j'imagine. Alors, il y a un gros sujet quand même en ce moment à l'Assemblée nationale, un texte très important, c'est le projet de loi climat et résilience.
Tout à fait.
Pardon. Vous intervenez un peu dessus ou pas du tout?
Absolument pas.
D'accord.
Alors, absolument pas, parce que c'est une commission spéciale qui arrivait juste après la commission spéciale sur les principes républicains, violence sur mineurs qui arrivait. Donc, c'est le genre de texte qu'on ne peut pas regarder à moitié. Je suis les débats. On a des réunions de groupe, on débriefe de pas mal de sujets. Je vois quels sont les points politiques
les tendances,
dessus.
Voilà. Les avancées, bien sûr.
Exactement. Mais ça m'étonnerait que je dépose des amendements individuels.
D'accord. Okay,
d'ailleurs,
okay.
C'est assez rare que je dépose des amendements individuels. De manière générale, depuis le début
oui,
du
vous
mandat,
les
c'est pas trop
avec, vous les co-signez avec vos collègues, avec le groupe.
Voilà, exactement.
Mm-hmm. D'accord. Quelles sont vos prochaines actualités personnelles? Est-ce que vous avez, enfin personnelles, je veux dire individuelles en l'occurrence, plutôt, est-ce que vous avez prévu de déposer une proposition de loi à court terme, avant
Honnêtement, une, ça suffit.
Ouais.
Une, ça suffit. Et surtout quand on voit le... C'est très long, en fait, de faire une proposition de loi. C'est vraiment une expérience en tant qu'ancienne avocate et en tant que députée aujourd'hui. Je chéris cette expérience parce qu'on apprend plein de choses. Puis je l'ai faite vraiment de bout en bout. C'est-à-dire que j'avais fait un rapport d'abord.
Mmh, après le rapport, c'est un peu comme ça que ça débute pour voir.
Ouais. Un rapport durant lequel
là, vous auditionnez des personnes.
Voilà. Et tout le monde nous disait, ça va caler une armoire, il n'y aura pas de texte, etc. Le premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, garantit qu'on aurait une loi. Donc, on était hyper déterminés. J'ai écrit le texte. Je l'ai soumis au Conseil d'État, ce qui n'est pas une obligation pour les propositions de loi.
Bien sûr.
Et ensuite, j'ai fait toutes les réunions de travail avec le Conseil d'État. Ça aussi, c'est assez rare. Normalement, c'est les administrateurs qui y vont.
D'accord.
Mais j'avais déjà la curiosité intellectuelle. Et puis, c'était pour mieux comprendre aussi. Et moi, ça m'a énormément enrichi dans le reste des débats, en fait, d'avoir été auprès des conseillers d'État pour comprendre ce qu'il n'y avait pas. Donc, le conseiller d'État m'a fait tout réécrire, clairement. Et puis ensuite, on a toutes les lectures, les négociations avec le Sénat, qui là n'ont pas abouti. Encore des lectures, le Conseil constitutionnel, les réponses à apporter au Conseil constitutionnel. C'est un chemin de croix, hein. C'est très éprouvant. Je ne pense pas qu'on puisse en faire plusieurs dans un mandat.
Oui, j'imagine. Mais en parlant justement de ce texte, et vous parliez notamment des avis que vous aviez pu avoir de la part du Conseil d'État, il n'y avait pas eu d'anticipation, enfin davantage d'anticipation par rapport au potentiel déclaration d'inconstitutionnalité sur certains articles. Vous connaissiez les risques ou vous avez
bien
été
sûr.
Surprise?
Non, non, bien sûr. Et en fait, il y a eu une censure de l'article premier. Et par effet domino, parce que tous les articles s'accrochaient au premier.
Ouais.
Voilà. Donc, moi, si j'ai un regret, c'est de ne pas avoir suffisamment... En plus, j'avais créé deux chapitres exprès, mais je n'avais pas pensé que dans le chapitre 2, en faisant des renvois au chapitre 1, ça tombait aussi. Voilà.
D'accord.
Donc ça a été une erreur. Ensuite, sur l'article premier, on savait qu'on créait quelque chose de nouveau. C'était l'obligation pour les plateformes de retirer en 24 heures les contenus manifestement illicites. C'était quelque chose de nouveau, c'était construit. Il y a une loi allemande qui leur demande de retirer les contenus, mais c'est pas du tout le même mécanisme. Là, moi, j'avais créé un délit sur mesure pour les plateformes. Et donc, ce qui faisait qu'elle passait devant le juge, mais ce qui faisait qu'un délit, c'est une erreur. Et donc, pour une erreur de modération, elle pouvait se prendre jusqu'à 1 250 000 euros d'amende. Et le Conseil constitutionnel a considéré qu'il y avait trop de risques, que justement, je salue Ludovic, et que justement, tous ces risques emportaient donc l'inconstitutionnalité. Mais
d'accord.
Le Conseil constitutionnel, ce qu'il dit également, c'est pas juste qu'on ne peut rien faire. Le Conseil constitutionnel, ce qu'il nous dit, c'est qu'en réalité, on peut avancer, mais il faut des garde-fous.
Ouais,
et j'ai essayé.
À
chaque lecture, en fait, vous voyez, à chaque lecture, j'ai mis de nouvelles dispositions pour encadrer. J'ai mis de nouvelles dispositions pour donner un peu plus de souplesse, de flexibilité, de proportionnalité, mais ce n'était pas suffisant.
D'accord. Quel parcours pour cette loi, quand même.
Voilà.
Est-ce que ça vous a beaucoup déçu?
Oui.
Parce que vous dites que c'est un travail très important. J'imagine que ça doit quand même décevoir.
Il y a eu plusieurs moments. Il y a le moment. Alors, la censure, je savais qu'elle arrivait parce que quand on voit les questions qui sont posées par le Conseil constitutionnel, on comprend assez vite dans quelle direction on
d'accord.
va. Donc,
oui,
je
en
savais...
plus, vous êtes juriste de formation, donc
voilà.
C'est pas quand
donc,
même.
Je savais que c'était fini pour l'article 1. En revanche, je me demandais s'ils allaient laisser subsister le reste du dispositif en disant, en revanche, il faut le reconstruire, il faut le réécrire, faut quelque chose, quoi. Mais je me voilà, ça a été une déception très vite, très vite. J'ai fait un plateau le soir même parce que je devais absolument faire savoir que je renonçais pas. Et c'était pas pour moi, c'était pas une question de péché d'orgueil, mais c'est il y avait tellement d'associations avec qui j'avais travaillé qui attendaient ce texte que je pouvais pas juste dire eh bien écoutez, tant pis, c'est fini. Et donc après j'ai travaillé tout l'été, j'ai essayé de faire de nouvelles propositions. Il y a eu l'affaire Samuel Paty. Ouais. L'affaire Samuel Paty, je dois vous dire qu'à titre personnel, ça a été difficile parce que on est revenu sur la question des réseaux sociaux. Beaucoup de personnes ont dit il faut réguler les réseaux sociaux. Des gens sont venus me voir positivement en me disant tu vois, Laetitia, en fait, tu avais raison de porter ce sujet. Il aurait fallu qu'on avance, mais comprenez pas à quel point c'est difficile, en fait, humainement. D'entendre cela, et surtout quand des journalistes nous posent la question en nous disant si votre loi était passée, est-ce que ça aurait évité le drame Samuel Paty ? La question derrière, même si ce n'est pas ça que les journalistes veulent dire, mais la question derrière, c'est quand même de dire bon, si vous aviez fait un texte plus solide, est-ce qu'il serait encore vivant ? Et ça, c'est ouais, extrêmement dur quand même, éprouvant.
Voilà. Ouais, je veux bien vous croire. Je veux bien vous croire. Mais beaucoup disent tout de même que l'arsenal juridique, enfin, oui, c'est ça, l'arsenal juridique, on peut dire ça comme ça, actuel est suffisamment bien ficelé, bien fourni pour éviter justement la haine en ligne. Qu'est-ce qui fait pour vous que ce schéma juridique n'est pas parfait ? Qu'est-ce qui manque concrètement ?
Alors, la première chose, c'est qu'il est obsolète.
D'accord.
Si on repose sur deux textes, notre loi de 81 qui régit la liberté d'expression, et qui est une bonne loi, et qui s'applique à la fois dans l'espace physique et dans l'espace numérique, et enfin dans la presse papier et dans l'espace numérique. Mais pour s'appliquer, on doit passer par le mécanisme de la LCEN, la loi de confiance dans l'économie numérique, qui, elle, date de 2004, et qui vient transposer une directive de 2000. Donc, quand je vous parle de 2004, quand je vous parle de 2000 en matière de numérique, c'est juste l'âge de pierre.
Ouais,
il n'y avait rien. Facebook n'existait pas en France. On n'imaginait même pas que Twitter puisse exister. On n'imaginait même pas, on ne savait pas ce qu'était un hashtag, on ne savait pas ce qu'était une story, on n'imaginait pas qu'une fonction live puisse exister. Absolument. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, tout ce qui fait partie de notre pratique n'a pas été du tout intégré dans ce dispositif législatif. Et donc, c'est ce qui fait que ça crée une impunité. Et ce n'est pas qu'un sentiment d'impunité. Parce qu'on a des lois qui ne sont pas adaptées. Donc, lorsqu'on a très peu de personnes qui déposent plainte parce que les droits ne sont pas adaptés, lorsqu'il y a quelques plaintes, les enquêtes ne prospèrent pas, parce que les gens sont sous pseudo, et donc pour obtenir les éléments d'identification, il faut envoyer des réquisitions judiciaires lourdes aux États-Unis, traduites en anglais, ça a un coût faramineux, et en plus, en raison du premier amendement, les plateformes ne répondent pas. Donc tout ça n'avance pas. Et donc, finalement, il n'y a pas de décisions qui sont rendues. Et ça, tout ça, ça crée un cercle vicieux. Parce que quand il n'y a pas de décision rendue, personne ne va déposer plainte. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a cette impunité. Et donc, tout le texte, l'objectif, c'est de renverser la vapeur. C'est de... Parce qu'il y a des dispositions pour pouvoir déposer plainte en ligne, plus rapidement. Un parquet numérique qui va être vraiment fer de lance de cette politique pénale qui est en lien direct avec les plateformes, qui sait comment fonctionnent les stories, qui sait comment fonctionnent les snaps, parce que c'est des vrais problèmes. Enfin, on va au commissariat, ils nous disent « Mais si ça a disparu, vous déposez plainte sur la base de quoi ?» C'est ça la réalité de ce qui est pour les victimes. Et plutôt, alors la formation, il faut la faire, c'est vrai, mais dans l'urgence, plutôt que de faire une formation grande échelle sur tout le territoire, bien, on a là une équipe de personnes qui sont hyper calées sur le sujet et qui gèrent. Voilà.
D'accord. Donc, en fait, c'est pour répondre à un vide juridique que vous pensez avoir identifié.
Exactement. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a consensus autour du sujet. Dans le cadre du projet de loi Principes républicains, les dispositions sur la haine en ligne, elles ont été votées 97 voix pour, 2 voix contre. Donc, je crois que la prise de conscience, elle est généralisée. Le consensus est là.
Et ça doit être quand même très difficile de discuter avec ces plateformes.
Oh là là, quelle horreur!
Quand
Non, mais le
même.
pire, c'est que moi, je fais tous les efforts possibles. Je ne vous cache pas. Je leur envoie mes amendements par avance. Je leur demande si
D'accord,
elles ont
ouais.
des petits ajustements. Parce que parfois, c'est vrai qu'il y a des questions techniques
Qui peuvent échapper,
qui peuvent échapper. Et on ne sait
oui.
pas que
Oui,
le fait
clairement.
d'utiliser tel terme dans la loi va poser des difficultés. Je suis allée voir leurs équipes de modération. Vraiment, je suis allée en Irlande, je suis allée aux États-Unis pour voir leurs équipes de conformité, pour leur expliquer comment il faudra appliquer ensuite le droit français. Vraiment, j'ai fait tous les efforts possibles, mais les plateformes ne veulent pas être régulées en réalité. Elles vous diront le contraire, elles feront des tribunes dans la presse. Régulièrement, enfin récemment, j'ai fait une intervention devant des étudiants avec une représentante de chez Google qui nous disait qu'elle était pour la régulation, mais moins de sanctions, moins de transparence, moins de règles. Bon, finalement, pour rien, faut le dire, c'est épuisant. C'est
Et
épuisant.
quel est le pays sur lequel on pourrait prendre exemple, d'après vous, qui a déjà un système de régulation qui fonctionne bien et qui pourrait être plus ou moins transposé, ou en tout cas sur lequel la France pourrait prendre exemple et s'appuyer pour légiférer?
Alors justement, il n'y a pas. En fait, l'objectif, c'est que la France soit vraiment le fer de lance précurseur en fait de tout cela, parce que on a une loi allemande, mais la loi allemande, elle a montré un certain nombre de limites, puisque c'est une loi qui a entraîné aussi un certain nombre de dérives au début dans son application. Et d'ailleurs, le législateur allemand est déjà en train de revenir sur cette loi pour la réadapter. Donc c'est vrai que nous, alors c'est plus facile hein, de partir sur un exemple qui permet de voir là où ça n'a pas marché pour se dire on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus approprié. Donc nous, l'objectif c'est d'avoir nous ce texte qui est plus équilibré et que ce soit celui-là qui serve de modèle pour la suite. Et d'ailleurs, les Autrichiens ont légiféré en janvier et
D'accord.
sont partis d'un texte très proche de celui que j'avais présenté.
D'accord. Ouais, c'est intéressant quand même. Et est-ce que les obligations que vous aviez prévues, enfin les dispositions que vous aviez prévues dans la loi, comment dire, sont, je suppose, hein, c'est stupide comme question, sont en conformité avec ce que prévoit la Commission européenne et ce que prévoit, en tout cas, pas ce qui existe actuellement, parce que c'est une obligation que de se conformer, mais en tout cas plus dans une perspective prospective, disons. Vous parliez tout à l'heure de l'anticipation que vous aviez faite du travail de la commission. Est-ce que vous allez dans le sens, parce que la commission s'intéresse beaucoup à ce qui se passe sur
Oui.
Internet, est-ce que vous allez dans le même sens ou est-ce que
Complètement.
vous allez un peu plus
C'est
loin?
une question hyper pertinente parce que je ne vous cache pas qu'il y a deux, trois éléments sur lesquels moi je serais allée un petit peu plus loin, mais j'avais pris un engagement. Ça fait plusieurs mois que je travaillais avec les commissaires européens, où j'ai tenu informé de mes travaux, de ce qu'on voulait faire à l'échelle nationale, et j'avais pris cet engagement d'être de ne vraiment rien faire de contradictoire avec le droit européen et d'être vraiment dans la dynamique de ce qui est fait à l'échelle européenne. Donc, et c'est d'ailleurs pour être sûr de fonctionner ainsi, que sur les amendements qui ont été déposés dans le projet de loi principe républicain, on a attendu. Les dispositions étant en ligne, il y avait trois articles, mais vraiment c'était plus des accroches qui étaient prévues dans ce qui a été envoyé au Conseil d'État. Et ensuite, on a attendu le 15 décembre que le texte européen soit publié pour ensuite faire cette pré-transposition et traduction en plus, parce que le texte, on ne l'avait qu'en anglais, pour l'adapter au droit français. Et c'était important d'attendre, parce que si on avait déjà commencé, nous, notre rédaction, forcément, on aurait eu des moments ou des lieux sur lesquels on n'aurait pas été exactement en ligne. Donc, cette démarche, elle a eu lieu vraiment, donc en gros, entre le 15 et le 30 décembre.
Très bien. Non, c'est intéressant quand même, parce que on sait que la Commission européenne est très attentive
Oh oui.
au marché
Oui,
numérique.
tout à fait, tout à fait. Et on va notifier en plus ce texte à la Commission européenne qui transmettra des observations.
Super, merci beaucoup. Merci pour toutes ces actualités. Est-ce qu'on parle de vous maintenant? Qu'est-ce que vous en pensez?
Allons-y. On a déjà beaucoup parlé de moi en fait en réalité, parce que ce que je fais, c'est ce que je suis aussi.
Bien sûr,
Mais
bien
oui.
sûr. Ce qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce que vous avez fait avant d'être député? Alors vous arrivez en 2017, j'imagine, c'est votre premier mandat. Vous poussez les portes de l'Assemblée nationale pour la première fois avec beaucoup d'émotion. Comment ça se passe le premier jour, par exemple?
Alors, C'est très drôle parce que je.
La une petite fois... anecdote à nous raconter
non, mais j'étais,
peut-être.
J'étais avec une journaliste du magazine Elle qui voulait justement suivre mon portrait, enfin faire mon portrait et justement partager cette émotion avec moi de ce premier jour. Je crois que ça a été déceptif. mais c'est vrai parce que.
Pour vous fait, ou pour elle?
Pour elle, alors peut-être parce que j'étais pas suffisamment expressive et que j'intériorisais beaucoup les choses, mais en fait j'étais dans ces lieux, tout allait tellement vite que je comprenais même pas où j'étais en réalité.
Alors, juste une anecdote. C'est impressionnant déjà. Et puis,
voilà, j'entre dans l'hémicycle. Alors déjà, je me dis, oh là là, c'est tout petit en réalité. Mais oui. Et les huissiers me montrent la tribune. Et ils me montrent comment on fait quand on est à la tribune. Et en fait, j'écoute à moitié. Et je dis à l'huissier, je dis, non, mais de toute façon, moi, je ne suis pas censée aller là. Au moment où je deviens députée, je n'imagine pas une seconde que je monterai à la tribune un jour. Pour moi, c'est la tribune Simone Veil. Voilà, je n'imagine pas une seconde y aller. Et alors que j'y ai été des dizaines de fois, en fait.
Bien sûr,
Et j'ai fait énormément de discours à cette tribune. Mais en fait, je réalisais pas du tout l'ampleur de ce que j'allais pouvoir faire, le champ des possibles, en fait. Parce que moi, c'est ce que j'aime en étant députée, c'est qu'on peut faire plein de choses. Et on se saisit des sujets qui nous intéressent et on y va et on les travaille et on les porte et on les défend et on harcèle le gouvernement et parfois on gagne, parfois on perd, mais voilà, on mène des batailles au quotidien.
Et donc comment vous en êtes arrivé là? Racontez-nous un peu votre parcours, comment vous en arrivez à vous présenter avec l'étiquette En Marche, du coup, en 2017 pour rejoindre l'Assemblée nationale.
Bon, moi je suis issue d'une famille populaire. J'ai grandi à Villetaneuse et puis à Saint-Ouen. Et je suis entrée à Sciences Po par les conventions d'éducation prioritaire. À l'époque, je rencontre Jean-Michel Darroy, qui est un très grand avocat d'affaires, qui me recrute. Au moment où il me recrute, il est nommé président d'une commission qui doit réformer la grande profession du droit. C'était l'époque où Sarkozy était président. Et il me demande d'être la secrétaire générale de sa commission. J'ai 22 ans. Je ne sais pas exactement ce que cela implique, hein, je ne vous cache pas. Mais en gros, je vais devoir m'occuper des travaux d'une commission qui réunit des sénateurs, des anciens ministres, des députés, des chefs d'entreprise, et qui avait pour rapporteur un jeune homme qui s'appelait Emmanuel Macron.
D'accord.
Donc, je travaille pendant 8 mois avec Emmanuel Macron. On s'entend très bien.
D'accord.
Voilà, on apprend à se connaître et à s'apprécier personnellement. Et donc, pendant les 10 années qui ont suivi, on s'est suivi. Donc, il a quitté Bercy à l'époque pour devenir banquier. Puis, il est revenu secrétaire général de François Hollande, ministre, enfin voilà. Et puis moi, à côté, je deviens avocate, je monte mon cabinet et on se suit. Et le jour où il monte En Marche, je lui fais juste un message qui lui dit, je sais pas exactement quel est le but, l'objectif, mais si tu as besoin de moi, tu connais mon dynamisme, tu connais mon énergie, n'hésite pas.
Donc là, vous étiez déjà motivée, vous avez dit, si je fais quelque chose, j'ai envie d'en faire partie.
Mais ce quelque chose, je ne l'avais pas défini encore. Et j'avoue que lors de ma première discussion avec les membres de l'équipe à l'époque, quand ils ont commencé à me parler de présidentiel, je les regardais un peu en me disant, oui, bien sûr, c'est ça. Bon, allez, c'est pas grave, on y va. La grande marche, j'aime. Moi-même, je ne suis pas politisée. Pourquoi est-ce que je ne suis pas politisée? Pourquoi est-ce que mes voisins ne le sont pas? Est-ce qu'il ne faut pas aller interroger les gens, leur demander ce qu'ils attendent des politiques? Et c'est ce qu'on attendait de moi dans cette équipe, en fait. C'est le fait de n'avoir jamais été encartée et d'avoir ce regard de citoyenne. Et donc voilà, donc j'ai fait toute cette campagne. Je ne comptais absolument pas
donc vous l'avez fait
devenir
à Paris.
Députée. Alors, j'étais dans le Val-de-Marne.
D'accord.
J'étais dans le Val-de-Marne, j'étais référente du Val-de-Marne, donc je suis devenue référente territoriale, j'ai animé des réunions publiques alors que je n'avais jamais été moi-même dans une réunion publique de ma vie, une réunion politique. Voilà, du coup je les ai faites à ma manière et je trouvais ça sympa, voilà. Et je n'avais pas prévu de devenir députée du tout. Et c'est pile il y a 4 ans, puisque c'était pour le 8 mars, que Emmanuel Macron a répondu à une interview chez Cosette où il parlait du peu de femmes qui s'engageaient, qui voulaient être députées. Et donc, il m'a cité parmi les personnes qui étaient victimes de l'autocensure. Ce genre de propos a tendance à me titiller, forcément. Et donc, j'ai tout de suite dit, OK, moi, autocensure, non, allez, j'y vais. Et voilà. Voilà l'histoire.
Ah, c'est marrant. Donc, il vous a vraiment nommé, quoi, dans cette interview.
Il ne m'a pas nommé. Il a dit, regardez, j'ai des personnes engagées dans mon équipe. Par exemple, Laetitia Avia, c'est une de mes référentes. Elle ne veut pas être députée, c'est de l'autocensure. Voilà.
Il vous l'avait pas forcément dit. Il vous avait pas...
Ah non, pas du tout. J'ai découvert en direct. J'écoutais comme tout le monde. C'était une interview en live Facebook, je crois, à l'époque. J'ai entendu ça en même temps que tout le monde. Voilà.
Du coup, vous avez dit, bon, allez, c'est parti.
Oui, voilà. Et je l'ai annoncé le 8 mars, du coup, parce qu'il n'avait pas tort, comme souvent, en fait. Et oui, c'était de l'autocensure. Et du coup, j'ai...
Et pourquoi alors ? Qu'est-ce qui vous retenait ?
C'est juste que je ne m'imaginais pas devenir députée. Je n'avais jamais mis cette phrase.
Est-ce que vous avez mystifié un peu la fonction ou...
Oui, je l'avais... Mais j'avais raison de le faire. Hein. Mmh. C'est une fonction qui est extrêmement importante. On a une très grande responsabilité. Et, et parfois même, moi, ça me génère même des angoisses. Parce que je sais que ce que je peux dire a un écho. Je sais que si je prends une position forte dans l'hémicycle, elle peut être entendue. Et que si je dis quelque chose, en fait, d'erroné, ça peut avoir des conséquences erronées dans un texte. Et qui vont s'appliquer à énormément de personnes, en fait. Ouais. Donc oui, c'est une fonction qui est extrêmement importante et beaucoup la dénie. Mais moi, j'ai toujours vu ça vraiment avec beaucoup de respect et je suis fière d'y être aujourd'hui, mais à l'époque, je ne m'imaginais absolument pas avoir... Je pensais aussi que je manquais de culture politique, de culture historique même, pour pouvoir débattre dans l'hémicycle. Et puis finalement, je fais à ma manière, simplement.
Donc c'est une bonne expérience, vous ne regrettez pas ?
Non, absolument pas.
Est-ce que vous pensez vous représenter alors ?
J'espère. J'espère être dans les conditions pour me représenter. Être dans les conditions, c'est avoir quelque chose à proposer. C'est savoir ce que je vais pouvoir porter. Là, je suis en train de terminer un texte. J'aimerais vraiment, vraiment qu'il aboutisse, qu'il soit vraiment en œuvre pour avant la fin du mandat. Et il faut que je réfléchisse à ce que je pourrais porter ensuite pour l'avenir, parce que là, ce sera pas du tout la même configuration. Je pourrais pas faire comme en 2017 où j'arrive, je découvre. Là, il faut que je puisse dire à mes électeurs ce que je veux faire pour eux à l'avenir que j'ai pas pu faire lors de ce premier mandat. Et je pense que c'est l'honnêteté que moi, en tant qu'électrice, j'attendais des candidats et je dois m'astreindre à cela. C'est pas être candidat pour être candidat, c'est être candidat parce qu'on a quelque chose à apporter.
Bien sûr. Quelle est votre plus grande fierté jusqu'à présent en tant que députée ? Vous voyez que les questions sont pas préparées. Hein. C'est ça pour les auditeurs.
Oui. Alors, quelle est ma plus grande fierté ? Alors là,
votre plus beau combat, enfin, ce qui pour vous a été le plus important jusqu'à aujourd'hui, en 4 ans.
J'en reviens toujours à ça, parce que j'en reviens toujours à ce combat sur la haine en ligne, parce qu'en fait, en réalité, même si il y a eu ce premier échec, je pense qu'il s'est passé quelque chose.
Bon, ça a créé le débat, en tout cas, ça c'est sûr.
Ça a créé le débat, et puis on a fait bouger des lignes, on a avancé des choses, on a avancé sur des choses. Il y a eu un moment où tout le monde s'est bousculé. Et j'ai eu un moment, une communication de Snapchat, pas Snapchat France, le Snapchat Monde, qui saluait mes travaux et les encourageait. C'était quelques semaines avant le vote. Et là, j'ai un certain nombre de personnes qui sont dans le milieu du numérique depuis longtemps qui me disent « Laetitia, tu réalises pas à quel point tu as fait bouger les lignes sur ces points-là. » Que les dirigeants de grandes plateformes qui sont aujourd'hui, alors Snapchat, ils sont plutôt côté à Washington, donc ils sont à Washington, disent nous on salue et en me nommant, disant on salue le travail de Laetitia Avia et on l'encourage, c'est que ça bouge dans le numérique et ça, ça a été une grande fierté de me dire ça y est, ils sont embarqués.
Ouais. C'est vrai, c'est intéressant, c'est bien. Ça, c'est une belle résonance en tout cas, ça c'est sûr. Et des regrets peut-être?
Oui, alors des regrets, bon, comme je le disais, un échec c'est toujours un regret, mais c'est pas tant, c'est, mon regret il est plutôt sur ce que j'ai pas pu faire en matière d'égalité des chances. Mmh. En fait, l'égalité des chances, c'est mon histoire. Je suis entrée à Sciences Po par la discrimination positive et je crois pleinement en la discrimination positive. Je le dis, je l'affirme, je pense que c'est la solution. Mais je n'ai jamais réussi à le porter. Alors, je n'ai pas réussi à le porter, un, parce que j'avais cette idée de me dire je suis avocate, j'ai travaillé d'ailleurs sur le programme Justice de La République En Marche. Il faut que j'aille sur mes sujets justice. Et ouais. Non, il ne faut pas que ce soit celle qui est issue de l'égalité des chances qui vienne travailler sur l'égalité des chances. J'ai eu ce réflexe en début de mandat de vraiment m'éloigner de ces sujets. Je ne me suis pas mise dans le groupe qui travaille sur tout ce qui concerne les quartiers politiques de la ville. Je n'ai pas forcément travaillé sur les mesures qu'on a portées pour le dédoublement des CP, etc. J'ai laissé d'autres le faire. Et ça, c'est un regret parce que aujourd'hui, vraiment, je pense, je reviens en fait à la façon dont je voyais les choses en 2016-2017. On a besoin de personnes, non pas seulement qui portent des idées, mais les incarnent. Et je crois que j'aurais pu avoir bien plus de force, mais juste en racontant à quel point ça a été difficile pour moi dans ma jeunesse, en racontant aussi mes débuts à Sciences Po. Enfin, au bout de 3 mois, moi, j'allais voir le responsable en lui demandant de m'aider à me réorienter. Je me sentais pas chez moi dans cette école et ça a été difficile. Et tout ça, c'est des choses, je pense, qu'il faut qu'on raconte aux jeunes pour que... Et je pense qu'une élue leur dise, je suis passée par là, moi aussi, et je sais ce que c'est que de se sentir empêchée. Eh bien, ça peut aider. Donc, voilà. Mon regret, c'est peut-être de ne pas avoir suffisamment parlé de moi et de ne pas avoir suffisamment porté des sujets qui me touchaient, moi.
Vous au avez début. Encore un an pour le faire.
Oui, j'ai encore un an pour le faire. Et surtout, je pense que si je devais porter un texte à l'avenir, ce serait sur ce sujet-là. Mais pas pour ce mandat, je ne porte plus de texte pour ce mandat. Vraiment.
Oui, j'ai compris que c'était cool. C'était lourd.
mais pour vous dire, parler de soi, ce n'est pas évident. C'est pas évident du tout. Ça nous expose bien plus que tout. Les gens pensent qu'on est exposé parce qu'on passe à la télé ou quoi que ce soit. Non, moi, je suis exposée quand j'utilise la première personne, en réalité. Et je l'ai fait sur la haine en ligne. J'ai parlé de ce que je recevais parce qu'il fallait donner une résonance vraiment à ce texte. C'est pas un texte technique. C'est pas évident.
Encore une petite question, si ça vous dérange pas.
Allez.
Vous vous considérez de droite ou de gauche?
Ni l'un ni l'autre, mais ni vraiment. L'autre. Et ça a toujours été le cas. C'est peut-être pour ça que je n'étais pas politisée avant. Alors, je ne vous dis pas que je ne me suis pas fait draguer, hein. Forcément. Hein. Je parle à gauche comme parle à droite, mais je ne répondais pas aux sollicitations. Et oui, moi, je me suis reconnue dans le mouvement En Marche parce que j'avais plus besoin de me définir. Après, moi, j'aime bien être un électron libre. Je pense que ça correspond à ma personnalité. Alors, je vois dans la presse qu'on me qualifie comme étant membre de l'aile gauche de La République En Marche. J'ai d'ailleurs un journaliste qui m'a appelé une fois pour me dire, me demander si je me sentais pas seule dans cette aile gauche. Je lui ai expliqué que je me suis pas... Je n'aime pas qu'on me mette dans une case, en fait. Et puis, je crois que la grande majorité des gens dans la rue ne se posent pas la question de savoir s'ils sont de gauche ou de droite, en fait. Voilà.
OK. Super. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je crois qu'on a déjà bien, bien discuté. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour conclure ce live?
Eh bien, je voudrais vous remercier, en fait, parce que
Merci à vous.
les questions que vous m'avez posées m'ont fait pas mal réfléchir aussi.
Et, c'est vrai.
Oui, c'est vrai, parce que c'est des questions qu'on ne se pose pas forcément tous les jours. Et puis, c'est bien, ça m'a rappelé pas mal de choses, parce que je me suis remise aussi dans mes chaussures de 2016-2017. Hein, et ça me donne quelques perspectives pour les prochains mois. Donc, merci, vraiment.
Courage. Courage pour les prochains mois. Merci beaucoup, Laetitia Avia, d'avoir passé ce petit moment avec nous. C'était super. De vous recevoir. Je vous souhaite une belle fin de journée, pardon. Et puis
merci
peut-être à
vous.
Bientôt sur un prochain live et dans votre prochain mandat.
Mais bien volontiers, merci.
Bon courage pour la suite, merci beaucoup. Au revoir.